Santander.
Folie, 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 va te prendre.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 5 mai 2023, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia. Pour commencer, les titres. Le président américain Joe Biden dit que le conflit doit cesser au Soudan. Il menace de prendre des sanctions. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, appelle à éviter des conclusions hâtives, accusant l'armée du massacre de Karma. En Allemagne, le bureau du député d'origine sénégalaise, Karamba Diaby, incendié. À Londres, l'influent sénateur nigérian Ike Ekweremadu attend sa peine dans son procès pour trafic d'organes. Moscou accuse Washington d'avoir commandité l'attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin, démenti de la Maison-Blanche. Couronnement du roi Charles III samedi au Royaume-Uni. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le président américain Joe Biden a menacé hier d'imposer de nouvelles sanctions concernant le conflit au Soudan, déclarant que les combats doivent cesser alors que des tirs et des explosions ont continué à Khartoum pour la 20e journée consécutive. Le point avec Eric Manirakidza.
Le président Joe Biden a signé hier un décret qui élargit le pouvoir d'imposer des sanctions aux personnes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan, sans nommer les cibles potentielles. Les violences au Soudan sont une tragédie et doivent cesser, a déclaré dans un communiqué le président américain. Quelques heures après l'entrée en vigueur du dernier cessez-le-feu supposé, des témoins à Khartoum ont fait état d'explosions et d'échanges de tirs nourris dans les rues de la capitale. Selon le Armed Conflict Location and Event Data Project, les combats ont fait environ 700 morts, la plupart à Khartoum et dans la région occidentale du Darfour. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, près de 450 000 civils ont déjà fui l'enfer soudanais, dont plus de 115 000 ont cherché refuge dans les pays voisins. Pour le moment, aucune solution diplomatique n'est en vue. Les ministres de la Ligue arabe, très divisés, se réunissent à nouveau dimanche avant un probable sommet en Arabie saoudite à la fin du mois.
Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé un grand entretien hier soir à la télévision nationale. Il a été question essentiellement de la lutte contre le terrorisme. Selon le président de la transition burkinabé, le pays est sur la bonne voie. La guerre a commencé, mais le Burkina n'en est qu'à l'introduction, a-t-il estimé. Sur la question des partenariats, le capitaine Traoré se dit ouvert aux partenariats, même s'il reconnaît qu'il y a certains plus développés que d'autres. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'entretien du président de la transition a duré un peu plus d'une heure. La lutte contre le terrorisme, la réforme de l'État, mais aussi la question de la gouvernance ont été les points abordés. Mais il fallait s'y attendre. La lutte contre le terrorisme a dominé l'entretien. Et sur ce plan, le Burkina est sur la bonne voie, a rassuré le capitaine. La guerre n'est qu'à son introduction, assure-t-il, et de poursuivre que des phases plus intenses viendront. Pour le président Traoré, la guerre, il faut la faire, et les forces de défense et de sécurité, ainsi que les supplétifs de l'armée sont engagés. Ni Wagner, ni aucune autre force étrangère ne viendra combattre à la place des Burkinabés, a-t-il insisté. Sur la question des partenariats dans la lutte, le capitaine Ibrahim Traoré parle d'alliés stratégiques.
On a de nouvelles coopérations. On a la Russie, par exemple, qui est un allié stratégique. La chance, c'est que la plupart de nos moyens majeurs, même, sont russes. Vous avez la Turquie, qui est un allié majeur. Vous avez d'autres États aussi. Donc, on a beaucoup d'alliés.
Concernant le drame de Karma qui a fait 147 morts selon les ressortissants, le capitaine Traoré rassure que les enquêtes sont en cours et qu'il faut éviter les conclusions hâtives. Le président a demandé aux Burkinabés de rester en veille pour protéger la transition. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Guinée, un juge a comme annoncé hier que le procès pour corruption présumée d'Amadou Damaro Camara, un ancien président de l'Assemblée nationale et proche du président déchu Alpha Condé, a été renvoyé au 15 mai, l'accusé étant hospitalisé. Monsieur Damaro Camara a été inculpé et placé en détention en avril 2022 pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite blanc, blanchiment de capitaux et corruption. En Allemagne, le bureau du député d'origine sénégalaise Karamba Diaby a été incendié à Halle, dans l'est du pays, a annoncé jeudi ce parlementaire social-démocrate déjà visé par des menaces de mort et des tirs contre sa permanence. Précision de John Linden.
Heureusement, personne n'a été blessé. Cet acte me met en colère, a tweeté le député SPD, déplorant que son bureau soit inutilisable pour une durée indéterminée. Un suspect retenu sur les lieux par des témoins, alerté par des flammes sur la façade du bâtiment, a été interpellé. Il a été placé en détention provisoire par un juge. Selon Karamba Diaby, le suspect lui avait déjà lancé des injures racistes. Je suis horrifié qu'un nouveau lâche attentat ait été perpétré contre le bureau de circonscription de mon collègue du Bundestag. La chambre basse du Parlement allemand a réagi la coprésidente du Parti social-démocrate, Saskia Esken. Âgé de 61 ans, M. Diaby, né au Sénégal et qui a obtenu en 2001 la nationalité allemande, avait été la cible en 2020 de menaces de mort. Premier député noir d'Allemagne, élu dans une circonscription de l'ex-RDA, une région où prospère l'extrême droite, M. Diaby avait aussi reçu le soutien de la plupart des partis allemands après la découverte la même année d'impact de balles sur sa permanence.
L'influent sénateur nigérian Ekwere Mandu, reconnu coupable à Londres d'avoir voulu prélever le rein d'un jeune homme pour le faire greffer à sa fille, connaîtra ce vendredi sa peine à l'issue du premier procès de ce genre au Royaume-Uni. L'élu de 60 ans, son épouse Béatrice et un médecin ayant servi d'intermédiaire ont été reconnus coupables en mars d'avoir organisé le voyage au Royaume-Uni de leur victime, un vendeur de rue de 21 ans, originaire de Lagos, pour lui prélever son rein. Ils ont tous les trois été condamnés en vertu de la loi britannique sur l'esclavage moderne, utilisée pour la première fois dans une affaire de prélèvement d'organes. Ils risquent la prison à vie. La fille du couple, Sonia, 25 ans, a, elle, été innocentée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a accusé jeudi les États-Unis d'avoir commandité l'attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin qu'elle affirme avoir déjoué la veille. Un mensonge, a rétorqué John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. De son côté, l'Ukraine a fermement démenti tout lien avec cette affaire dans laquelle Moscou dénonce une tentative présumée des Ukrainiens d'assassiner le président Vladimir Poutine. À un jour du couronnement de Charles III et Camilla, les autorités britanniques veulent rassurer sur la sécurité, annonçant le déploiement de plus de 10 000 policiers à Londres, Jacques Aristide.
70 ans après Elisabeth II, le Royaume-Uni va couronner son nouveau roi demain. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues le long du trajet qu'effectueront en carrosse Charles, 74 ans, et Camilla, 75 ans, entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster. Environ 2300 autres ont été invités à la cérémonie, dont de nombreux chefs d'État. L'opération de sécurité destinée à protéger cet itinéraire est l'une des plus importantes de ces dernières années dans le pays, indique le gouvernement. Scotland Yard va utiliser la technologie de reconnaissance faciale. Des snipers seront postés sur les toits. Outre le danger terroriste, la police surveille de près les militants climatiques et anti-monarchie. Le groupe Republic a prévu une manifestation à Trafalgar Square et le long de la procession samedi matin. Dimanche, les Britanniques sont invités à prendre part au Big Lunch, des fêtes de voisins. Et le soir, 20 000 personnes assisteront à un concert sur la pelouse donnant sur le château de Windsor. Le faste du couronnement fait grincer des dents en pleine crise du pouvoir d'achat, d'autant qu'il incombera largement aux contribuables britanniques de le payer. Le coût de l'événement n'a pas été révélé, mais il a été évalué par des médias jusqu'à 100 millions de livres sterling.
Les autorités américaines se disent inquiètes des dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Les grandes entreprises qui créent cette technologie majeure ont un devoir moral de protéger la société, a rappelé jeudi la vice-présidente américaine au patron de Google, Microsoft, OpenAI et Anthropic, Mohamed Oumfa.
Après une réunion à la Maison-Blanche avec les patrons de ces grands groupes technologiques, Kamala Harris a indiqué dans un communiqué que le secteur privé a un devoir éthique, moral et légal de s'assurer de la sûreté et de la sécurité de ses produits. Kamala Harris a souligné que l'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer le quotidien et de s'attaquer à certains des plus grands défis de la société, mais qu'elle pourrait aussi augmenter considérablement les menaces qui pèsent sur la sécurité, rogner sur les droits humains et la confidentialité et saper la confiance du public dans la démocratie. Les dangers vont de la discrimination à l'automatisation des tâches remplies par des humains, au vol de propriété intellectuelle ou encore à la désinformation sophistiquée à grande échelle, entre autres. Les géants de l'Internet ne nient pas l'existence de ces risques, mais craignent que l'innovation ne soit bridée par des lois trop contraignantes.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
L'Éthiopie va accorder entre 3 et 5 licences bancaires à des investisseurs étrangers au cours des 5 prochaines années, a annoncé la Banque centrale. L'ouverture du secteur bancaire éthiopien à la concurrence étrangère est très attendue par de nombreuses banques africaines, dont la sud-africaine Standard Bank et la Kenyan KBC Group. L'Afrique a légèrement augmenté sa part dans la production mondiale de café durant la campagne 2021-2022, grâce notamment à une baisse de sa production moins importante que celle enregistrée dans d'autres régions du monde, a souligné l'Organisation internationale du café OIC dans son rapport publié le 17 avril dernier. L'autorité britannique de la concurrence EMA a annoncé jeudi lancer un examen du marché de l'intelligence artificielle, actuellement en plein essor du point de vue de la concurrence et de la protection des consommateurs.
Merci Eric. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Basketball Africa League, plus que 2 jours avant la fin des matchs de la conférence Nil.
Oui, à suivre ce soir le choc entre les Angolais de Petro de Luanda et les hôtes égyptiens d'Alali, tous deux qualifiés pour les playoffs. Toujours ce soir, les Ougandais de City Oilers font face aux Mozambicains de Ferroviário da Beira. Les matchs de cette conférence Nil prennent fin demain samedi.
Football, le Mali qualifié pour les quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans.
Les Aiglons du Mali ont enregistré leur 2e victoire dans cette compétition en battant le Cameroun 2-0 dans le seul match de la journée d'hier jeudi. Pour rappel, la poule C est composée de 3 équipes car le Soudan du Sud a été renvoyé pour s'être fait prendre par le test IRM. Le Mali rejoint ici le Maroc et le Sénégal déjà qualifiés pour le tour suivant. Pas de match aujourd'hui et demain samedi. Les confrontations reprennent dimanche.
31 supporters de l'Espérance de Tunis placés en détention après des violences.
Ces supporters sont poursuivis pour des incidents survenus samedi lors du quart de finale de Ligue des Champions CAF entre l'Espérance de Tunis et la Jeunesse sportive de Kabylie. Les supporters de l'Espérance ont tenté d'entrer sur la pelouse après la première période, mais des policiers se sont interposés et des heurts ont éclaté. Le match a pu reprendre après une 30aine de minutes d'interruption. Devant des tribunes pratiquement vides du côté de l'Espérance, 27 autres supporters qui font l'objet d'enquêtes ont été laissés en liberté.
Victor Osimhen et Naples consacrés champions d'Italie.
Le Napoli de l'attaquant nigérien est officiellement devenu champion d'Italie 2023, 33 ans après son dernier sacre grâce à son match nul 1-0. sur le terrain de l'Udinese hier jeudi, un match de clôture de la 33e journée. L'Udinese a ouvert la marque à la 13e minute, mais comme d'habitude, Naples a pu compter sur Victor Osimhen pour égaliser à la 52e minute. L'attaquant nigérien a ainsi inscrit son 22e but de la saison en Serie A, celui du titre. À 5 journées de la fin du championnat, Naples, qui n'avait besoin que d'un point pour être assuré du titre, ne peut plus être rejoint et décroche ainsi le 3e scudetto de son histoire après ceux de l'ère Maradona en 1987 et 1990.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le gouvernement a initié une série de rencontres avec des responsables politiques de la société civile, des syndicats et autres. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire. Le gouvernement demande la mobilisation de tous pour faire face au terrorisme et dénonce la violation de l'espace aérien burkinabé. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Des membres du gouvernement face aux leaders politiques, syndicaux et de la société civile. Ici, le gouvernement explique à ses responsables ce qui est fait dans la lutte contre le terrorisme et dénonce une violation de l'espace aérien. Colonel-major Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense.
Nous avons actuellement beaucoup de violations de notre espace aérien. Nous prévenons. Quand il y a des questions, on dit voilà, on a vu ça, on vous prévient. Et voilà, on envoie souvent des images, voilà ce que nous avons vu. Dieu merci, ils s'excusent souvent. Ils ont dit, Warrenais, soyez ici, il n'y a aucun militaire, aucun membre de Warrenais au Burkina Faso. Ce sont nos propres moyens que nous utilisons pour faire la guerre.
Le colonel-major Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense, appelle à la solidarité de tous les Burkinabés.
Le Burkina Faso demande uniquement qu'on nous envoie des moyens pour que nous fassions cette baraque. On n'a pas besoin d'un soldat étranger, nous allons gérer notre affaire nous-mêmes. Dieu merci, la population a massivement répondu à l'appel du chef de l'État pour les VDP. On a demandé 50 000, nous en sommes à plus de 90 000. Même pour la formation, les gens s'inscrivent, s'inscrivent toujours. Et c'est ça que nous voulons. Il faut qu'on soit sincère, qu'on soit solidaire. Il ne faut pas qu'on se fasse appeler, les gens sont obligés de couper. Ça arrive. De grâce, notre pays est en train de brûler. Il faut qu'on le sache et qu'on aille ça directement là-bas. Éteignons le feu. Il ne faut pas qu'on nous transforme comme des pays que nous avons vu sur les chaînes de télé. Je ne vais pas citer le nom, vous le savez. Ça ne servira à personne. Soyons solidaires. Ce n'est pas une histoire de personne, ce n'est pas une histoire de pouvoir, ce n'est pas une histoire de tout, c'est une histoire du Burkina Faso.
Des participants à ces rencontres ont réagi. Tahirou Bari, homme politique.
Et il faut fortement saluer cette démarche du gouvernement et qui nous permet d'avoir des informations crédibles. Parce que ce qui est distillé à travers les autres canaux de communication, comme les réseaux sociaux et autres, ne sont pas suffisamment d'une certaine crédibilité qui puisse nous permettre de prendre conscience des enjeux et de la gravité de la menace qui pèse sur notre pays. Avec ce que nous avons entendu, il y a un impératif de se remobiliser autour de la nation en danger.
Maître Alidou Ouedraogo, acteur de la société civile.
Nous sommes tous concernés par la situation, la mobilisation générale, la situation des guerres, et nous avons hâte vraiment d'en sortir. Et vu la tournure préoccupée par les choses, nous sommes convaincus que nous allons nous en sortir. Il faut travailler à l'unité nationale, à informer le peuple, à éduquer le peuple et à prêcher pour l'unité nationale.
D'autres rencontres avec les coutumiers, les ambassadeurs et les patrons de presse doivent se tenir. Le gouvernement dit faire d'énormes efforts dans la lutte contre le terrorisme tout en garantissant le respect des droits humains. Sur les tueries de Karma, près de Waiguya qui ont fait 147 morts, les autorités ont rassuré que 12 personnes ont déjà été auditionnées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Tchad, la pénurie de carburant fait grincer des dents à N'Djamena. Les usagers font le tour dans les stations-service, mais le gasoil et l'essence sont de plus en plus rares. Une situation qui ralentit les activités dans tous les secteurs de la vie. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, fait le point.
Une pénurie de carburant sans précédent qui donne l'occasion aux petits revendeurs de faire de la spéculation. Ils vendent aux usagers le litre d'essence entre 1500 et 2000 francs CFA. Certains usagers d'engins à deux et à quatre roues en arrivent même à passer des nuits devant les stations-service pour tenter d'obtenir le liquide qui se fait de plus en plus rare. Nous avons eu maille à partir avec les agents du service de sécurité quand nous sommes allés constater les difficultés qu'éprouvent ces consommateurs devant une station-service de la place. La tension est vive.
Faites ton travail. Nous, on va vous protéger.
On est en train de souffrir.
Je suis là, faites ton travail.
Ah, ça, là, ça, ça cause quoi?
Depuis 3 heures du matin, qu'on est ici. Les policiers viennent ici de nous dire qu'il ne faut pas qu'on quitte la maison. Pourquoi?
Une pénurie qualifiée d'artificielle par les usagers qui ralentit les activités des conducteurs de moto-taxi appelés clandomènes.
Nous, on a passé la nuit ici. C'est depuis hier, 14 heures que nous sommes là. Pour avoir carburant, jusqu'à là, on n'arrive pas.
Et on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui me fait mal au cœur. Si un militaire vient, on le sait. Et nous, nous sommes là, bloqués depuis hier jusqu'à maintenant. On n'arrive pas à comprendre. Je suis un clandestin. Vous voyez, la journée d'aujourd'hui, c'est comme si c'est invalide.
Oui, c'est mon cas, je suis un clandestin. Je suis venu depuis hier vers les 14h30 jusqu'à l'Espagne, le carburant.
Certains citoyens disent ne pas comprendre que le Tchad, qui est un pays pétrolier, puisse connaître une telle situation qui, selon eux, est une insulte à la population.
Il est inadmissible qu'un pays exportateur du pétrole depuis 20 ans aujourd'hui, nous assistons à des pénuries pareilles. Mais je crois que ce sont les Tchadiens qui doivent aussi se réveiller.
Moi, je la trouve déplorable parce que en tant qu'un pays pétrolier, on ne peut pas souffrir des pénuries de carburant pendant plus d'une semaine au fait. On a également les prix des transports qui augmentent de jour en jour.
Moi, je suis surpris. Franchement, qu'est-ce qui ne va pas? On est en train de voir qu'il y a pénurie de carburant, pénurie de gaz, et puis il y a aussi des coupures de courant. Donc, nous demandons au gouvernement d'agir d'une manière très responsable pour que la situation devienne normale très rapidement.
Le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Gounou Vaïma Ganfare, dit ne pas être surpris et demande au gouvernement de régler rapidement. Sinon, il brandit la menace d'une réaction syndicale.
La situation s'en pire. Mais qu'on ne condamne plus un travailleur s'il ne vient pas au travail. On ne peut pas gérer un pays sans prévoir. Même si on veut réviser Jarmaya, qu'est-ce qui empêcherait de faire des réserves pour alimenter tout le Tchad en attendant que le temps que la révision va se faire? On commence la révision et on bloque tout. On demande simplement à l'État de régler cette situation-là très rapidement. Mais si cette situation perdure, nous allons réagir.
Selon les informations proches du ministère du Pétrole et de l'Énergie, la situation sera décantée d'ici peu, car la même source indique que le premier convoi des citernes de plus de 1,2 million de litres, dont 7 000 litres d'essence commandés à l'extérieur, est déjà arrivé à N'Djamena. Pour le moment, les conducteurs tchadiens se rongent les freins et attendent simplement de retrouver l'essence à la pompe. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
La manipulation et la désinformation se sont intensifiées avec l'avènement des médias sociaux et la propagation rapide de l'information en ligne. Comment pouvons-nous tous contribuer à garantir que nous avons accès à une information de qualité et une information fiable? Nous retrouvons au micro d'Éric Manirakidza, Sadibou Marong, responsable du bureau de Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne.
La désinformation est actuellement l'un des plus gros défis, ça il faut le reconnaître. Surtout dans des pays à problème, entre guillemets, comme le Mali, dirigé aussi par des juntes, comme le Mali, le Burkina, il faut reconnaître qu'il y a une forte tendance de désinformation. Pas plus tard que cette semaine ou la semaine dernière, nous avons travaillé sur une tentative de désinformation qui a été préparé par des cabinets spécialisés à la demande du gouvernement burkinabé. Bon, nous soupçonnons que c'est le gouvernement, c'est les autorités militaires qui leur ont demandé cela, d'essayer de geopardise, comme on dit, de mettre à rude épreuve les travaux des journalistes compétents et des journalistes indépendants qui ont révélé qu'il y a eu des tueries, qu'il y a eu des au moins 40 personnes tuées à Karma. Et cela aussi, ça pose problème. Et plus nous avançons dans le Sahel, on le voit un peu émerger au Mali avec le comité de défense des militaires qui inonde Twitter, qui inonde Facebook, les réseaux sociaux, pour attaquer directement des journalistes qu'ils considèrent comme des journalistes qui ne sont pas, entre guillemets, soumis aux autorités. Et non seulement en le faisant, ils mettent en péril la sécurité de ces gens-là, mais ils créent également des officines de la désinformation et du faux qu'ils développent et qu'ils partagent sur Twitter, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et c'est une tentative qui est là et pour laquelle il faudra que les autorités se battent, mais et que même la communauté internationale, parce que ce ne sera pas un travail qui va se limiter aux simples autorités. Je pense que c'est des actions coordonnées de manière bilatérale et multilatérale pour faire face à la désinformation.
Donc la motivation de cette désinformation, c'est aussi
la manipulation et la propagande. Donc, les mêmes gouvernements essaient d'induire en erreur les médias pour peut-être essayer de créer des prétextes et les supprimer.
C'est ça. Et aussi essayer de contrôler le narratif, de faire valoir leur narratif. Parce que dans ce débat-là, il y a un narratif qu'ils cherchent à contrôler, aussi bien au Sahel, ou aussi bien un peu, par exemple, en Éthiopie, ou aussi bien dans d'autres pays aussi. Le contrôle du narratif, c'est quelque chose sur laquelle les autorités ont tendance à mettre beaucoup d'accent, mais en utilisant souvent l'industrie du faux, mais en allant même jusqu'à créer, commencer à développer un peu des systèmes d'intelligence artificielle qu'ils utilisent un peu pour porter des coups à l'information et à l'information intègre et à la qualité de l'information. Et ça, on le voit, c'est une tendance qui est en train d'émerger effectivement en Afrique.
Est-ce que les journalistes et les médias sont-ils conscients de cette préoccupation de la désinformation?
Nous appelons les journalistes d'une manière générale à en être conscients, mais nous avons fait mieux. Nous avons amené une contribution de RSF, qui est un projet de RSF qui s'appelle le JTI, Journalism Trust Initiative, qui consiste à mettre en place des initiatives de label pour les médias. Tous les médias qui seront inscrits dans ce programme-là de JTI. Actuellement, en Afrique, nous avons un média au Niger qui est certifié, parce que c'est un processus de certification, pour mettre en place un peu des processus de qualité d'information, de qualité, des standards de qualité pour les informations avec des normes ISO. Tous les médias qui seront souscrits à cela et qu'ils parviennent à y accéder, ça va être une garantie véritable pour ce média-là, à tourner le dos à tout processus de désinformation, tout processus de fake news, tout processus de... Et ça va davantage rendre crédible à ce média-là et ça va davantage formaliser, protéger ces journalistes et le nom ou le titre du média.
Sadibou Marong, responsable du bureau de RSF pour l'Afrique subsaharienne. Vous pouvez suivre l'intégralité de cet entretien sur toutes les plateformes digitales de VOA Afrique. Au Togo, pendant ce temps, les organisations de presse demandent la relecture du Code de la presse et de la communication. L'article 3 du nouveau Code exclut les réseaux sociaux du champ d'application du texte de loi régissant les journalistes. Une aberration pour ces derniers. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosou.
Entré en vigueur en janvier cette année après un moratoire de 3 ans, le nouveau code de la presse et de la communication ne prend pas en compte les publications des journalistes sur les réseaux sociaux et expose ces derniers à des peines de prison. Pour Isidore Akolor, président du patronat de la presse togolaise, les réseaux sociaux sont de nos jours un outil de travail pour les journalistes.
Tout journaliste aujourd'hui qui se respecte doit avoir son blog, sa page Facebook, son compte Twitter pour pouvoir réagir sur des sujets d'actualité. Pour nous, les réseaux sociaux sont des outils de travail pour les journalistes. Et nous disons que, bon, on ne peut pas faire les journalistes des journalistes de seconde zone.
L'application de ces dispositions du Code de la presse a induit l'emprisonnement de 2 journalistes l'année dernière. L'un d'eux est décédé quelques mois après sa libération. L'autre a dû fuir il y a quelques semaines. Pour Maître Gilles Anani, avocat, certains journalistes ont prêté le flanc.
Certainement qu'il y a eu certaines personnes, ou certains journalistes, pas tous, ça il faut le dire, et qui ont fait qu'à un certain moment, certainement, le législateur a dit, bon, je vais voir si je ne veux pas commencer par mettre une coupe là-dedans, malheureusement. Et à partir de là, on s'est retrouvé avec des dispositions qu'on peut critiquer, à tort ou à raison, et qui font que la marge de manœuvre qu'il y avait avant a commencé par se réduire.
Pour Loïc Lawson, directeur de publication de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, ce code doit être purement et simplement toiletté.
Cet aspect du code de la presse qui ne reconnaît pas aux journalistes dans l'exercice de son métier d'user des réseaux sociaux, en 2023, ce n'est pas possible. On marche à reculons. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que quand on fait une erreur ou quand un test est voté et qu'on reconnaît que le test n'est plus en adéquation avec la réalité du moment, il faut la changer.
Reconnaissant que la perfection n'est pas de ce monde, le ministre de la Communication et des Médias estime que le code de la presse ne doit pas connaître de sitôt un toilettage. Akoda Ayewada.
Le gouvernement est tout ouïe pour recueillir les propositions et les suggestions de nos partenaires journalistes, tout en priant les uns et les autres de laisser quand même le texte vivre. Il est important, le texte date de 2020. Si en 2023, l'on ambitionne de renverser la table et de pouvoir créer un autre texte, on n'aura pas donné la chance à ce texte de faire ses preuves.
Selon le porte-parole du gouvernement, Christian Trimoy, les journalistes devraient s'accommoder au moins pendant 2 ans avant une possible modification. Kossi Wosou, Lomé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Lionel Ronaniera Gahima, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée, à l'écoute de VOA Afrique.